En colloque. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne durant la case.
Le vendredi 17 novembre 2006, l'Académie des inscriptions et belles-lettres organisait un colloque en hommage à Jean Filiosa autour du thème « Sciences et médecine en Asie ». Jean Filiosa a imprimé une nouvelle direction aux études indiennes par son œuvre scientifique et ses différentes activités au sein des institutions auxquelles il a appartenu. Il entra à l'Académie des inscriptions et belles-lettres en 1966. Il fut membre de la Société asiatique dont il fut vice-président. Il enseigna au Collège de France. Il fonda l'Institut français de Pondichéry en 1955 et dirigea l'École française d'Extrême-Orient de 1956 à 1977. Lors de cette journée d'études sciences et médecine en Asie, Jean-Pierre Mahé, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, présenta une communication sur le thème « La version arménienne de l'œuvre du médecin Abou Saïd ». Sur les pas de Jean Filiosa qui s'intéressa à l'histoire de la médecine indienne, Jean-Pierre Mahé s'intéresse à l'histoire de la médecine arménienne du VIe siècle. Retrouvons-le en grande salle des séances le 17 novembre 2006.
Le XIIe siècle marque un tournant décisif dans l'histoire de la médecine arménienne. Fuyant l'invasion seldjoukide de la seconde moitié du XIe siècle, de nombreux Arméniens se réfugient en Euphratèse et en Cilicie, où un certain Rouben fonde, vers 1079, une principauté qui devient, en 1199, le royaume d'Arménie cilicienne et subsiste jusqu'à la conquête mamelouque de 1375. Dans ce nouvel état, les Arméniens vivent en symbiose avec d'autres communautés chrétiennes, grecs orthodoxes, catholiques des états croisés, ou jacobites de tradition syriaque, d'ailleurs parfaitement arabophone. À partir des années 1170, les jacobites siliciens installent au monastère de Gavikat, près de Tsis, un siège patriarcal dissident dont l'existence est reconnue au XIIIe siècle par le patriarcat légitime de Barsauma dans le sultanat d'Iconion. Cette proximité quotidienne facilite le bilinguisme et les échanges intellectuels. De même que les érudits de langue syriaque furent au temps du calife Al-Mamoun les premiers traducteurs arabes de la science antique, c'est à nouveau par l'intermédiaire de savants syriens que trois siècles plus tard, la médecine arabe apparaît dans le monde arménien. La nouveauté est considérable, tant pour la forme que pour le contenu. En effet, les médecins siliciens de tradition syriaque ou leurs traducteurs arméniens agissent en praticiens plutôt qu'en lettrés. Rejetant l'arménien classique, encore de rigueur dans les écrits historiques ou théologiques, ils recourent pour la première fois dans la langue écrite au moyen arménien qu'on parlait de leur temps, et ils indiquent les termes techniques en arabe, à côté des équivalents arméniens qu'ils suggèrent. Mais surtout, leur propos est à la fois plus pragmatique et plus précis que celui des époques antérieures. Auparavant, les textes médicaux visaient à montrer l'harmonie du macrocosme universel et du microcosme humain. Dans cette théorie, les vertus naturelles des quatre humeurs physiologiques rejoignent les qualités fondamentales des quatre éléments. Elles sont soumises aux mêmes lois de sympathie ou d'antipathie, d'affinité ou de répulsion. De même que le monde est soumis au rythme des quatre saisons, ainsi la vie humaine connaît quatre âges successifs, les quatre cordes de la lyre influent sur l'âme individuelle, comme la musique des sphères sur l'âme du tout. Cet ancien fond de sciences païennes s'adaptait facilement aux démonstrations théologiques des pères de l'Église, par exemple Basile de Césarée, Grégoire de Nice ou Némésios d'Émèse, sur la place privilégiée d'Adam au cœur de la création. En somme, le corps humain n'était pas envisagé pour lui-même comme une structure complexe qu'on se fût astreint à décrire dans tous ses détails ou dont on eût minutieusement expliqué le fonctionnement. On y voyait plutôt la demeure de l'âme, l'empreinte matérielle, le type d'une idée divine, celle d'une créature raisonnable à l'image de son créateur. Cette perspective s'inverse avec la médecine cilicienne. Désormais, le corps apparaît comme un objet concret d'observation. En apparence, on continue à se référer aux mêmes autorités que durant la période précédente, Hippocrate et Galien. Mais ce conformisme ne doit pas masquer la rupture. On ajoute à ces sources l'Aristote arabe, qui ne se limite plus, comme dans la période précédente, à l'Organon et au traité pseudo-aristotélicien du monde et des vertus, mais inclut également une vaste tradition savante sur la rhétorique et sur la métaphysique. Quant à la médecine, c'est l'exégèse arabe de Galien qui se diffuse alors parmi les Arméniens à l'école des maîtres syriens. Le plus ancien de ces maîtres syriens fut Abou Saïd, contemporain de Nersesh Norali, catholicos d'Arménie de 1166 à 1173. La préface ajoutée à la version arménienne de son œuvre par un rédacteur anonyme le présente comme un chrom, c'est-à-dire comme un chrétien de tradition syriaque qui avait adopté l'orthodoxie byzantine. De fait, il était né à Édesse, capitale du comté croisé du même nom, arraché par Baudouin de Boulogne à l'arménien Tauros en 1098. En 1144, quand sa ville natale fut prise et dévastée par Imad ed-Din Zangi, l'atabek d'Alep, Nersesh Norali, qui voulait composer une élégie sur la ruine de la cité, s'enquit auprès d'Abou Saïd de l'origine du nom d'Édesse. Plus tard, l'archevêque arménien de Tars, Nerses Lambronatsi, dédia au savant syrien un opuscule sur les noms des bâtisseurs de villes. Abou Saïd parlait sûrement l'arménien, mais il avait sans doute besoin d'une aide pour l'écrire. La tradition mentionne, parmi les œuvres de Nerses Lambronatsi, un traité d'anatomie qui ne nous est pas parvenu. On peut soupçonner qu'il s'agit en réalité de la version arménienne d'Abou Saïd. Soit que Nersès, qui savait le syriaque, ait traduit un texte original que nous ne possédons plus, soit plutôt qu'il ait directement transcrit en arménien les explications orales que lui donnait au fur et à mesure le médecin syrien. Ce genre de collaboration n'est pas isolé. On connaît au siècle suivant l'exemple du médecin Ishor, qui dicte à l'arménien Vartan Arevetsi son livre de la nature et rédige avec lui en 1245 l'adaptation arménienne de la chronique de Michel le Syrien. L'œuvre d'Abou Saïd sur la constitution de l'homme nous est transmise sous trois rédactions différentes. La première, dite longue, est sans doute la plus proche du modèle initial. La deuxième est un abrégé de la précédente. La troisième est en quelque sorte une nouvelle édition revue et augmentée par le médecin arménien Assar, né à Sébaste, l'actuel Sivas en Turquie, que le malheur des temps avait forcé à émigrer bien loin du Proche-Orient jusqu'à Lvov, dans le royaume de Pologne-Lituanie. Le prologue contient une brève revue des sources anciennes et plus récentes de la médecine, les Grecs, les Arabes, les Hébreux, les Syriens et les Indiens. Un rappel de la création du monde et de l'homme, l'énumération des 12 orifices du corps humain, la mise en parallèle des 4 humeurs avec les 4 saisons qui ont les mêmes qualités fondamentales, après quoi la description anatomique s'opère de haut en bas, du centre à la périphérie et de l'essentiel à l'accessoire. Tout d'abord, la tête et tout ce qui en dépend. Le cerveau, les yeux, les oreilles, le nez, la bouche et les dents. Puis les 6 organes les plus importants avec le cerveau. Le cœur, les poumons, le foie, la rate, les reins et la vésicule biliaire. Ensuite l'appareil urogénital avec la vessie et les testicules. L'appareil digestif avec l'estomac et les intestins. Enfin les os, les nerfs et les veines. La conclusion esquisse une théorie physiologique des 7 organes vitaux, cerveau, cœur, poumon, foie, rate, rein et vésicule, qui dépend encore largement des sources traditionnelles. à la différence des autres parties du corps qui peuvent être enlevées accidentellement ou gravement détériorées, ces organes sont indispensables à la vie du sujet. Ils sont en bonne santé tant qu'ils conservent leur qualité fondamentale. Le maintien de l'équilibre résulte du fonctionnement de l'organisme qui dépend des rapports bilatéraux entre ces organes. Par exemple, les poumons tempèrent la chaleur du cœur, indispensable à la vie et au mouvement. Quant au foie, il extrait de l'estomac les vertus nutritives et les répartit dans tout le corps. Il envoie le sang clair vers le cœur, le sang noir et brûlé vers la rate, le sang acide vers la vésicule biliaire et le sang épais vers les reins. À la différence de cette conclusion synthétique, les autres chapitres de l'ouvrage se consacre à un seul organe, présenté à chaque fois selon le même schéma. Le titre commence toujours par les mots « sur la création du nez, des yeux, du foie, etc. ». Le premier paragraphe indique la fin pour laquelle l'organe a été créé. Par exemple, Dieu a créé le nez pour qu'il perçoive toute odeur, bonne ou mauvaise, et pour qu'il évacue au dehors toutes les sécrétions superflues du cerveau. Suite une description anatomique, succincte mais précise, indiquant la forme générale de l'organe et la façon dont il se relie au reste du corps. La description anatomique débouche parfois sur des observations pathologiques, comme à la fin du chapitre sur le cerveau. Il existe un autre conduit qui part du cerveau vers le cœur. Quand ce conduit s'engorge, l'homme est atteint d'un mal qu'on appelle sacta, entendons l'apoplexie. La raison est que d'une part le cœur ne peut recevoir l'influx du cerveau et que d'autre part la vitalité et la chaleur du cœur ne parviennent plus jusqu'au cerveau, c'est pourquoi celui-ci se refroidit et c'est alors que le mal apparaît. Chaque chapitre s'achève par un épilogue astrologique. Par exemple, Dieu a fait le cerveau froid et humide et il lui a donné la lune pour maître de maison. Quant au cœur, il l'a fait chaud et sec et il lui a donné le soleil pour maître de maison. Ainsi, tous deux se renforcent mutuellement tous en se séparant grâce à leur nature. Le point final est toujours suivi d'une brève doxologie, gloire à Dieu. Le chapitre sur les yeux est particulièrement intéressant pour deux raisons. Tout d'abord parce que la description anatomique est relativement précise et détaillée, même dans la version la plus ancienne. En outre, parce que la rédaction récente d'Assar Sebastazi a amplifié l'original en y ajoutant au début et à la fin de larges extraits d'une œuvre contemporaine de celle d'Abou Saïd, c'est-à-dire d'un traité d'ophtalmologie aujourd'hui perdu du médecin arménien Mkhitar, né à Her, c'est-à-dire dans l'actuelle ville iranienne de Khoy, où il avait sans doute été instruit. Ce même praticien est aussi l'auteur, à la fin du XIIe siècle, d'un célèbre ouvrage sur le traitement des fièvres. Assar Sebastazi cite tout d'abord la préface de Mkhitar. Tout médecin qui désire soigner les yeux doit au préalable connaître leur anatomie afin de dispenser son traitement avec sagesse. Mais il n'y a rien d'écrit à ce sujet, ni dans le compendium, Kunash, ni dans la pharmacopée, Arhabat. C'est pourquoi j'ai résolu, moi, Mkhitar, de rappeler brièvement l'anatomie des yeux, combien ils ont de membranes, c'est-à-dire d'enveloppes, combien d'humeurs, qui sont les liquides des yeux, et combien de muscles. Je traiterai aussi de l'esprit de la vue, d'où il provient et comment il passe à travers les deux fibres qu'on appelle le nerf optique. Alors, se réclamant de Galien, il caractérise successivement ce qu'il appelle les sept membranes, les trois humeurs et les neuf muscles de l'œil. La description va de l'arrière vers l'avant. La première membrane s'appelle en arabe « sous le pied », ça veut dire un corps dur, fibreux, épais. On aura reconnu la sclérotique, un tissu élastique d'un millimètre d'épaisseur qui peut résister à des chocs assez forts. L'auteur remarque à ce sujet, cette membrane est près de l'os, pour protéger l'œil de sa rudesse et préserver d'atteintes extérieures. Là, ce deuxième membrane s'appelle Meshima, ce qui est aussi le nom de l'enveloppe qui entoure l'enfant dans le sein de sa mère et avec quoi il naît. L'auteur désigne ainsi la choroïde, dont le nom s'apparente effectivement à celui du choriode, enveloppe de l'œuf humain, et il explique que cette homonyme partielle est sans doute justifiée par le rôle nourricier que remplissent ces deux membranes. La troisième membrane se nomme sapakia, c'est-à-dire filet. Il s'agit bien sûr de la rétine. Or, juste après ces trois membranes, il y a une humeur appelée zouchaki, c'est-à-dire vitreuse, car elle ressemble à du verre blanc. Après ça, il y a une autre humeur qu'on appelle chalit, ce qui veut dire glaçon. Comprenons que Meritar désigne ici le cristallin. Cette humeur est entièrement limpide et claire, car c'est par elle que se fait la vue. Elle perçoit les formes et les couleurs. Le cristallin est au milieu de l'œil comme une sphère au milieu d'un plan ou un point au centre d'un cercle. Toutes les membranes l'enveloppent et le gardent, et les autres humeurs sont à son service, car il est plus précieux, et il convient d'écarter de lui les atteintes en lui apportant constamment le bien. Meritar insiste à juste titre sur la nécessaire transparence du cristallin, mais il ne fait aucune allusion à sa fonction accommodatrice, et il lui attribue un rôle de réception des formes et des couleurs qui est plutôt celui de la rétine. Après le cristallin vient la quatrième membrane qui sépare, nous dit-on, le cristallin de l'humeur aqueuse. La cinquième membrane se nomme yanapia, ce qui veut dire résiné, car elle ressemble à un demi-grain de raisin. Évidemment, la métaphore est déjà attestée chez Galien pour désigner l'iris. La sixième membrane s'appelle harnier, qui se traduit par cornée. La septième membrane se nomme multaima, ce qui signifie conjonctive. Le texte décrit aussi les muscles moteurs de l'œil, droit supérieur et inférieur, interne et extérieur. Le strabisme survient si un de ces muscles se relâche par excès d'humidité ou se contracte par excès de sécheresse. La fonction des deux muscles obliques est également bien expliquée. Trois muscles sont censés agir sur la pupille et trois autres sur la paupière supérieure. Deux tirent la paupière vers le bas et un vers le haut. Quant à la paupière inférieure, elle n'a pas de muscles puisqu'elle ne bouge pas. Distinguant les trois lobes du cerveau, l'auteur attribue la mémoire au lobe occipital, l'intelligence au lobe pariétal et la sensibilité au lobe frontal. Il en résulte que, selon lui, le centre de la vision devrait se trouver dans ce dernier et non pas dans le lobe occipital. En tout cas, du lobe frontal partent deux nerfs qui ont au centre une sorte de trachée et qui s'en vont tout droit, celui de droite vers l'œil droit et celui de gauche vers l'œil gauche. Mais quand ils arrivent en dessous de l'os du front, ils se confondent, puis se partagent à nouveau, de telle façon que celui de droite va vers l'œil gauche et celui de gauche vers l'œil droit. On reconnaît ici une description correcte du chiasma des nerfs optiques sur quoi Avicenne avait corrigé la doctrine de Galien. La cause ultime de la vue est censée être l'esprit de vision qui procède par les trachées des deux nerfs optiques de la filtration dans le cerveau d'une vapeur déjà plusieurs fois épurée entre l'estomac et le foie, la dure mère et une seconde méninge. Là-dessus s'achève l'extrait du traité ophtalmologique de Meritar, auquel viennent s'ajouter les explications d'Abou Saïd sur les cils et les sourcils. Il est clair que ces auteurs ne se piquent pas d'originalité. Au contraire, ils prétendent transmettre aux Arméniens une doctrine commune qui s'est imposée dans le monde musulman en complétant et en corrigeant par l'observation anatomique les enseignements de Galien. Cette transmission s'opère en deux étapes. Le Syrien Abou Saïd expose, dans un moyen arménien d'un style très simple, la doctrine des médecins arabes et leur terminologie. Mais il est incapable de trouver des équivalents arméniens. Meritar explique donc à sa façon le sens des mots arabes, de manière à justifier les néologismes arméniens qu'il propose avec beaucoup de justesse et d'expressivité. Nombre de ces traits qui désignent par exemple la sclérotique, le cristallin, la cornée, le corps vitreux, sont encore courants de nos jours. D'autres ont été remplacés, par exemple le terme qui désigne l'iris. Nous avons là un procédé nouveau d'enrichissement du vocabulaire scientifique. Même quand le mot arabe s'inspire d'un substrat grec, celui-ci échappe totalement à l'interprète arménien. Nous sommes donc très loin des procédés de l'école hellénisante du VIe siècle, où les termes techniques étaient créés mécaniquement par un calque formel des mots grecs décomposés en préfixes, radicales, suffixes. Ici, la traduction arménienne de l'arabe procède d'une interprétation globale, justifiée par une glose du terme arabe correspondant. Mais, à y regarder de plus près, qu'il soit rédigé par des Arméniens ou par des Syriens, ces traités arméniens de médecine des années 1160-1170 ne sont pas encore des écrits tout à fait autonomes. Ce sont plutôt des auxiliaires de l'oralité, comme il paraît non seulement à l'usage de la langue vernaculaire, mais au schématisme du contenu. Selon toute probabilité, ce sont de simples aides-mémoires qui servent à récapituler un enseignement oral essentiellement fondé sur la pratique. Ainsi s'explique que la rédaction ancienne d'Abou Saïd, pourtant assez succincte, est encore fait l'objet d'un abrégé. À l'arrière-plan de ces manuels en langue arménienne apparaissent les livres de référence en arabe, dont deux sont nommés dans notre texte, le Kounash, qui semble être une somme commentée des enseignements classiques, et l'Akhlapatin, qui est un recueil de recettes médicinales. Il faut sans doute compter aussi avec une tradition iatro-mathématique, c'est-à-dire une astrologie médicale visant à fortifier les organes atteints du malade en augmentant l'influence de l'astre qui protège chacun d'entre eux, ou au contraire en attaquant leurs ennemis célestes grâce aux vertus de pierres, de plantes ou autres substances réputées sympathiques ou adverses. C'est la seule utilité possible des indications astrologiques qui figurent à la fin de chaque chapitre. En somme, le traité anatomique d'Abou Saïd et les compléments ophtalmologiques légèrement postérieurs de Mokhtar présentent tout à la fois des archaïsmes résiduels et les prémices d'une modernité qui ne s'affirmera complètement qu'une dizaine d'années plus tard. De la période ancienne subsiste l'arrière-plan théologique ou providentialiste, les références astrologiques et certains raisonnements théoriques sur l'équilibre des humeurs. En revanche, l'observation anatomique et la réflexion sur le fonctionnement mécanique des organes ont notablement progressé. Cela suppose une pratique de la dissection qui aboutit à des découvertes comme le chiasma des nerfs optiques. Ce qui reste encore implicite ou oral sera écrit dans les décennies suivantes. La théorie des fièvres et de la contagion, imputée à la moisissure, c'est-à-dire à des agents infectieux vivants, le classement systématique des fièvres et des maladies internes, les symptômes et les méthodes d'examen clinique, les diagnostics et les pronostics, ainsi que les traitements et la pharmacopée. De cette façon, en 1184, pour faire face aux conséquences dévastatrices de la malaria, le catholicos Cricordra, protecteur institutionnel des pauvres et des malades, on dirait anachroniquement directeur de l'assistance publique, incite Mokhtar à rédiger son traitement des fièvres. À peine une génération plus tard, son disciple Grigoris complète et systématise ses théories dans son ouvrage sur la nature de l'homme et ses maladies. La médecine de l'Arménie cilicienne atteint alors son plein épanouissement.
Vous venez d'entendre Jean-Pierre Mahé, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, lors de sa communication sur la version arménienne de l'œuvre du médecin Abou Saïd dans le cadre du colloque « Sciences et médecine en Asie » organisé par l'Académie des inscriptions et belles-lettres en hommage à Jean Filioza, le 17 novembre 2006.